France Musique. Musicopolis. François Ier au camp du Drap d'Or. C'est sur l'année 1520 que Musicopolis pointe aujourd'hui sa machine à remonter le temps pour se rendre au camp du Drap d'Or. Trois mots qui nous en disent déjà beaucoup. Camp du Drap d'Or, un lieu organisé de manière éphémère et dans le plus grand luxe. Visite guidée. Nous sommes début juin 1520, il y a tout juste 500 ans. La fête n'est pas encore commencée, les participants ne sont pas arrivés. Le lieu choisi se trouve dans le Calaisis, entre Guînes, ville anglaise, et Ardres, ville française, non loin de la frontière avec les Pays-Bas espagnols. Avant de décrire plus précisément ce que nous voyons dans ce camp du Drap d'Or, mettons-nous dans l'ambiance. Ce qui nous frappe en premier lieu, c'est le bruit. Tout un peuple d'ouvriers, de charpentiers, de menuisiers, de forgerons sont là à dresser des structures en tout genre, monter des mâts, poser des planchers, dresser des tentes, construire des fours, ferrer les chevaux, forger des armes. Mais c'est aussi une fête pour nos narines. Ici, on prépare et on cuit des pains, des tourtes, des gâteaux, des pâtés, de volailles, de gibier, d'agneaux, de bœufs. Tout ce qui peut être préparé à l'avance pour accueillir des milliers de personnes se prépare là, sous les mains d'une armée de cuisiniers, de sauciers, d'échansons et de marmitons. Voilà des jours, des semaines, des mois que les commandes ont été passées. De draps pour les tentes, de chevaux pour les cavaliers, d'armes pour les jouteurs, de bétail pour nourrir tout le monde. Des messagers et des commis sont allés jusqu'en Italie pour rapporter tout ce dont on avait besoin. À présent que le moment s'approche, l'agitation augmente. Mais est-ce que tout sera prêt à temps ? Le 7 juin 1520, c'est le jour où ceux qui doivent se rencontrer au camp du Drap d'Or arrivent enfin, et en musique. Du sud vient le roi de France, François Ier. Du nord, le roi d'Angleterre, Henri VIII. Le français est le plus jeune, 25 ans. C'est une sorte de géant qui mesure entre 1,90 m et 2 m. Depuis son enfance, il a été aguerri aux exercices physiques. Il a l'habitude de porter une armure pesante qui est presque une deuxième peau. Il mange beaucoup, beaucoup de viande. Ce serait aujourd'hui un sportif de haut niveau hyper protéiné. Henri VIII, l'anglais, 29 ans, est lui aussi dans une forme physique parfaite. Chacun des deux, à cheval, est à la tête d'un cortège d'environ 3000 personnes, gentilshommes, gentes-dames, commis et valets de toutes sortes, et les gens d'armes, nécessaires pour se garder des attaques. François Ier et Henri VIII, les deux rois qui se rencontrent dans le Calaisis le 7 juin 1520, ont engagé chacun des sommes faramineuses pour la circonstance, et chacun a de multiples raisons de le faire. Pour Henri VIII, à la tête d'un petit pays d'environ 3 millions d'habitants, qui ces derniers temps n'était pas très présent sur la scène internationale, il s'agit de retrouver une place à sa mesure dans cette ère nouvelle qu'on va appeler « Renaissance ». Quant à François Ier, il a grand besoin de se trouver un allié. L'année passée, en 1519, malgré le 1,5 million de livres tournois qu'il a dépensés pour participer à l'élection à la tête du Saint-Empire germanique, c'est Charles de Habsbourg qui a été élu. Charles, soutenu par les banquiers allemands, avait dépensé, lui, 2 millions. Alors qu'auparavant, les territoires de Charles comprenaient déjà l'Espagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le sud de l'Italie, sa zone d'influence s'étend à présent en plus à tous les États qui seront un jour regroupés sous le nom d'Allemagne. La France se trouve en quelque sorte encerclée, situation fort dangereuse pour le pays. François Ier et Henri VIII se rencontrent à cheval, se congratulent, puis se retirent ensemble dans la grande tente qui a été dressée à des fins diplomatiques, juste entre les deux camps où ils résideront avec leur suite pendant toute la durée de l'événement, 18 jours. Draps d'or, cousus de fil d'or et de soie, tapis et décorations fastueuses, la tente abrite la conversation, certainement alimentée de nombreux sujets politiques. Après quoi, chacun repart dans son camp, parce que oui, la rencontre proprement dite a lieu dans le Val doré, mais chaque roi a son propre camp, tout aussi doré, dans lequel il se retire et dans lequel il invitera l'autre pour banquet, bal ou mascarade. L'événement étant avant tout diplomatique, les deux rois présents à l'entrevue de juin 1520 doivent situer leur compétition non sur le plan guerrier, mais sur la richesse, le luxe, le faste, la beauté, l'élégance, la démesure. Si vous me permettez ce mot familier, en quelque sorte, sur l'esbroufe. Tout ça, c'est de la communication, de la com'. Pendant les deux semaines que dure la rencontre, ce seront de continuels assauts et affrontements, mais pacifique, sur l'architecture, sur l'habillement, sur la nourriture, sur la valeur physique des hommes, sur la danse, sur la musique. Chacun ayant bien sûr toute sa chapelle avec lui. Première compétition entre les deux rois François Ier et Henri VIII, l'architecture de leurs logements respectifs. Une peinture commandée par Henri VIII après la rencontre du camp du Drap d'Or montre au premier plan le palais éphémère bâti à l'intention de l'Anglais par ses architectes. Une base en briques, puis une structure légère en bois peint en trompe-l'œil et surtout des fenêtres vitrées, grand luxe pour l'époque, qui laisse entrer la lumière à flot. Une merveille, s'ébobissent les témoins. Sur le même tableau, peint donc pour Henri VIII, précision importante, on voit en arrière-plan une petite tente dorée, celle de François Ier. Cette tente, juste à taille d'homme dans la représentation, est surmontée d'un toit de tissu et d'une statue. Mais pour replacer les choses dans leur juste proportion, je dois préciser que si cette tente a l'air toute petite sur le tableau, elle est tout de même, disent les témoins, haute de plus de 36 mètres, ce qui correspondrait aujourd'hui à la hauteur d'un bâtiment de 9 étages. Et la statue dorée de Saint-Michel à son sommet y ajoute encore 2 mètres. Je vous le disais, tout ça, c'est de la com'. Une fois impressionnés l'un l'autre par leur logement respectif au camp du drap d'or, les deux rois ont encore moult occasions de surenchérir l'un sur l'autre dans tous les domaines. Dans la journée, on organise joutes et tournois, annoncés par les hauts instruments, sur un terrain aménagé tout exprès. Les rois eux-mêmes combattent côte à côte pour ne pas risquer un incident diplomatique. Mais leurs chevaliers, eux, s'affrontent pour de bon. Pour accrocher les boucliers, les artistes de François Ier ont imaginé de dresser un arbre géant qui mêle l'aubépine pour Henri et le framboisier pour François, forgé d'argent et d'or vénitien, avec des fleurs et des bourgeons de soie. Les banquets sont bien sûr un moment important dans le déroulement de l'entrevue du camp du drap d'or. Les rois ne prennent pas tout leur repas ensemble, mais ils s'invitent pour des festins plus somptueux les uns que les autres. À cette époque, contemporaine de Rabelais, on peut dire que ces repas sont véritablement pantagruéliques. 3 services de 50 plats pour l'un, 4 heures à manger pour un autre avant de pouvoir se lever de table. La consommation pour les 18 jours est estimée à 100 000 œufs, 3000 moutons et agneaux, 800 veaux, 300 bœufs, et pour faire descendre tout ça, 66 000 litres de bière, qui coule d'une fontaine, et 200 000 litres de vin. Du vin clairet auxerrois, de Beaune, de Graves et d'Orléans, et du vin blanc de Gascogne. Pas moins de 24 trompettes sont mobilisées pour accompagner un banquet offert par François Ier à Henri VIII. Lorsque Henri VIII convie François Ier à son tour, le repas est agrémenté de spectacles et de mascarades préparés par les enfants et les gentlemen de la chapelle royale anglaise qui ont accompagné leur royal employeur.
Blow thy horn, Hunter, and blow thy horn on high. There is a door in yonder wood, in faith she will not die. Now blow thy horn, Hunter, and blow thy horn, jolly Hunter.
stricken is, and yet she bleeds no whit. She lay so fair I could, but this thought I was glad of it. Now blow thy horn, hunter, and blow thy horn, jolly hunter. As I stood under the bank, the geese off on the mead, I struck her so that down she sank, but yet she was not dead. Now blow thy horn, hunter, and blow thy horn, jolly hunter. There she goeth, see not how she goeth o'er the plain, and if he lusts to have a shot, I warrant her ballet. Now blow thy horn, hunter, and blow thy horn, jolly hunter.
La compétition entre François et Henri va se poursuivre jusqu'au dernier jour. Avant que tout le monde se sépare, on bâtit sur le terrain des joutes une chapelle éphémère, en bois, recouverte de tapisseries, dans laquelle une messe sera dite par le cardinal Wolsey, conseiller d'Henri VIII et instigateur de la rencontre, assisté de 21 évêques, 3 cardinaux et le légat du pape. La messe, somptueusement chantée, fera alterner les chapelles anglaises et françaises. Une entente cordiale qui laissera des traces, sinon dans la réussite diplomatique qui sera aussi éphémère que le camp, du moins dans la mémoire collective. On en parle encore. Credo à 6 de Antonius Divitis, douce mémoire dirigée par Denis Rézindadre. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Julien Bourdet pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Max Dosolm pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.